pas de problème, vas-y, tu peux y aller, Guillaume.
Ok, très bien, bonjour à tous, désolé pour ce début de un peu chaotique. Nous sommes de retour sur notre podcast eTeachers. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour les quelques fidèles qui nous suivent maintenant, en direct ou en différé. Et comme à chaque début de podcast, on vous remercie toujours puisqu'on a des retours et c'est toujours très agréable d'avoir ces retours sur notre passion, je dirais pas notre travail, mais sur notre loisir, en tout cas, d'organiser ces rendez-vous. Ce soir, émission un petit peu spéciale, puisque nous avons la chance d'avoir un autre invité, Sébastien, qui va se présenter un petit peu plus tard et qui enseigne le FLE et qui se trouve être en direct de New York. Donc, c'est ça aussi les joies d'Internet et de pouvoir faire ces émissions à distance. Bah, écoute, voilà pour la présentation, mon petit Jeff. Ça va, toi?
Oui, impeccable. Bonsoir tout le monde. Je vais revenir un petit peu sur... on a eu quelques commentaires sur l'épisode 5. Je vais revenir un petit peu. On a eu 5 étoiles sur iTunes. Ça fait toujours plaisir. Par Rexavi. Merci en tout cas à lui. Et 2-3 commentaires intéressants aussi via notre site eTeachers. Je lis. Donc c'est un message de Claude. Qui nous dit très intéressant, je recycle vos contenus et sur les réseaux sociaux et dans mes classes. Lors d'une des précédentes sessions, j'ai grâce à vous découvert Natural Reader, excellent, mes étudiants adorent, à la prochaine. Ça fait assez plaisir quand on utilise des choses qu'on présente. Hein.
Et bah ouais, ça fait super voilà. Plaisir ce genre de commentaire.
On a un deuxième commentaire de Tisman qui nous dit superbe l'idée de l'émission, elle a été ajoutée à mes podcasts. Alors en plus il me rappelle que j'ai fait une petite erreur que j'avais parlé de Chromecast, tu sais, de la petite clé HDMI pour permettre de streamer nos appareils mobiles. Alors il me dit qu'il ne fait pas de mirroring complet. Alors ce que je comprends c'est que on peut pas tout diffuser a priori. D'après ce qu'il me dit. Voilà, à vérifier ça. À vérifier.
Je pense qu'il veut dire que peut-être un petit peu comme quand on branche des adaptateurs iPad ou d'autres tablettes pour projeter des contenus, on peut pas projeter la totalité de la tablette, mais juste certaines applications dédiées comme les lecteurs de vidéo, les lecteurs de photos ou ce genre de choses, quoi.
Ouais, ou développer dans une appli, quoi, à mon avis.
Bon, très bien.
C'est ça?
Ok. Oui, je pense que c'est ça qui signifie. Très bien, très bien.
On va laisser peut-être à notre invité qui nous fait la joie d'être là, donc comme tu disais de New York, Sébastien, de se présenter un petit peu avant qu'on attaque.
Tout à fait.
Sébastien, tu
veux y aller, merci de merci de votre invitation et puis bravo pour votre podcast. Moi je suis Sébastien, donc prof de FLE français et langue étrangère, donc le concept, c'est tout simplement d'enseigner le français à des gens qui ne le parlent pas. Et effectivement, j'enseigne à New York là maintenant depuis plus de 7 ans. Et je fais aussi un podcast dans lequel j'espère vous voir intervenir bientôt, qui s'appelle Les Arts du FLE, disponible sur iTunes aussi, et qui a pour but d'associer la théorie aux pratiques de classe dans l'enseignement du français langue étrangère principalement, mais aussi des langues étrangères en général.
D'accord, très bien. En tout cas, avec plaisir, on pourra intervenir si tu nous invites.
Oui, l'invitation est lancée.
Bon, allez, je me lance. Moi, j'ai une...
C'est parti.
Je me lance. Moi, je vais parler d'une petite... Une petite séquence pédagogique, alors j'ai pas besoin de diffuser pour ceux qui nous regardent en vidéo notre écran, ça va être que audio là. J'ai trouvé ça... sur un blog de Mila Sainte-Anne. Donc l'adresse c'est milasainteanne.wordpress.com. Alors Mila Sainte-Anne c'est MILASINTA2NE. C'est une prof d'histoire géo qui a un blog qui nous parle un peu de ses expériences. Je sais pas dans quelle région elle est, c'était pas noté. Qui nous explique ce qu'on appelle un premier hold-up pédagogique. Qui va nous parler un petit peu du travail en groupe, comment elle a un peu géré le travail en groupe en classe. Alors, elle dit qu'elle a piqué une idée, déjà de... C'est pas son idée principale, mais qu'elle a un petit peu détournée. Elle a appelé ça un ping-pong battle. Alors, en gros, c'est quoi? Elle a divisé en fait la classe en 3 équipes de 8 ou 9 élèves qui vont en fait s'affronter sous une sorte de ping-pong. D'accord? Alors, le ping-pong, ce qu'elle appelle le ping-pong, c'est que... la veille, elle leur fait regarder donc par rapport au, elle le fait regarder pardon, elle le fait soit regarder une vidéo, soit par rapport à la séquence au cours, que les élèves posent trois questions et donnent les trois réponses de leur choix. Donc ils arrivent après ensuite en cours et ils vont la prof donc va tirer au sort. Alors il y a plusieurs façons. Elle parlait d'un dé, elle parlait de générateur de chiffres aléatoirement. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Et donc la personne va poser la question à la personne qui est tirée au sort et ainsi de suite. Ce qu'on appelle un ping-pong. Hein. Une réponse, ensuite ça continue. Hein. Vous avez compris l'histoire du ping-pong. Le plus, c'est de faire le plus de réponses possible juste. Ça, c'est celle du ping-pong. D'accord ? Ça paraît clair ce que je dis ? Oui, pour l'instant, oui ?
Oui, jusque-là, oui.
Jusque-là, ça va.
Alors, elle va former ensuite trois groupes qui vont essayer de se mettre d'accord sur les trois questions qu'ils vont devoir poser. Déjà, la première chose à faire, c'est qu'elle les laisse faire. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, chacun fait trois questions, mais il va falloir en choisir que trois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle dit que la cocotte minute commence un petit peu à monter. Elle voit qu'il y en a qui commencent à bouder, qui commencent certains qui veulent presque en venir aux mains. Donc, il faut calmer un peu les choses. On voit que ça commence à être nul. Elle dit de quelques petites anecdotes qui sont assez sympas. Ils ont dit que mes questions étaient nulles, qu'il veut tout décider pour tout le monde, etc., etc. Pendant que elle observe la prof donc et elle va noter un petit peu tout ce que toutes les réflexions de chacun et elle commence à faire au tableau sous forme d'un tableau style schéma heuristique par exemple toutes les réponses de chacun et puis elle leur demande ensuite ben, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que les choses se passent encore un peu plus mal. Alors là, les élèves ils vont dire que c'est un peu plus mal, vraiment toutes les réponses et ils exagèrent un maximum, disent que les élèves. Et ils commencent à parler, les élèves, qui finalement se commençaient un petit peu à chauffer un petit peu. Ils disent que certains élèves commencent à parler de respect, certains parlent de créatif, qu'ils ont choisi une question plutôt qu'une autre parce qu'elle était plutôt créative, etc. Alors c'est pour ça qu'elle appelle ça hold-up pédagogique. Donc c'est en fait travailler les élèves sur la méthode de travail de groupe et leur faire écrire eux-mêmes les règles. Moi, ça m'a intéressé ce système-là parce que c'est vrai que en science, on utilise beaucoup les travaux de groupe et on a du mal un peu à instaurer ce travail de groupe. Et là, ils se rendent compte d'eux-mêmes que finalement, avec un peu plus de respect, avec un peu plus d'écoute de l'autre, on arrive à se décider à quelle question on va poser. Et ensuite, elle lance le jeu donc du ping-pong et c'est un jeu qui marche plutôt bien. Il disait que même ce jeu de ping-pong, les élèves, pourtant, c'est pas noté, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Et ben, les élèves jouent très facilement le jeu. Et elle compare ça avec une équipe de rugbyman. Hein. Elle compare ça avec une équipe qui est plutôt soudée, hein, comme une équipe de rugbyman. Il faut avancer ensemble. Et elle a fait ça donc plusieurs fois et ça ressort vraiment. Alors je l'ai pas testé, mais ça donne envie de le tester ce principe-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'ai pas bien compris le ping-pong en fait. Autant la démarche de groupe.
Alors le ping-pong pourquoi ? Parce que donc les élèves vont arriver avec trois questions, trois groupes, trois réponses, d'accord ? Mmh. Ils vont être tirés au sort celui qui pose la question. La question va être posée à un élève tiré au sort. L'élève va pouvoir répondre. S'il répond, à son tour, il va pouvoir poser la question à une autre personne. Et ainsi de suite, on compte le nombre, voyez, de ping-pong. Et on peut compter les points par équipe. Après, on voit que finalement, c'est vraiment, il faut que l'équipe réussisse pour avoir le nombre de points, etc. Donc, c'est sous forme de jeu. Ça va, j'ai été clair là-dessus, Guillaume, ouais.
Je crois. Ouais. Mais en fait, la finalité, c'est vraiment que les élèves par eux-mêmes se rendent
compte de comment travailler en groupe. Voilà. Parce que souvent, on leur dit, il faut travailler ensemble, il faut écouter l'autre, etc. Ça marche pas vraiment. Surtout, je pense à des élèves plutôt jeunes qui sont pas trop habitués au travail de groupe. Là, je trouve que d'eux-mêmes, ils écrivent leurs règles. Et ces histoires de ping-pong, c'est pas mal aussi de poser des questions. Elle disait que les élèves jouaient le jeu même s'ils n'étaient pas notés. C'est à tester, c'est quelque chose que je pense que je testerai. Ouais.
Ça a le mérite d'être en tout cas original.
Ouais.
Il faut voir. Je pense que ça dépend aussi quand même beaucoup des élèves que tu as en face. J'avoue.
Qu'est-ce qui te sceptique sur quel point, là, par exemple ?
J'avoue avoir pas bien compris la finalité en fait. J'arrive pas bien à comprendre en quoi les élèves vont se rendre compte de. Enfin,
sur le groupe ou sur le jeu du ping-pong ?
Eh ben, un peu sur les deux en fait. Ce ping-pong là, ça me laisse un peu perplexe. Mais
Le ping-pong, t'as compris que c'était sur le cours, sur la notion, le cours qu'ils avaient fait là, le cours précédent.
Le cours précédent, tout à voilà. Fait, ouais, complètement. Voilà. Donc le but c'est que l'équipe marque le point en fait.
Voilà, donc s'il marque le point, il faut quand même avoir vu le cours précédent, il faut avoir créé ses questions.
D'accord.
Ouais, pour que ça marche. Ouais.
D'accord. Ok.
Bah après, il faut que les élèves jouent le
Mais je
jeu.
comprends je comprends les interrogations de Guillaume parce que quand on regarde un petit peu cet article ou quand on écoute ton explication, on se dit mais comment je peux faire pour l'adapter à l'enseignement des langues étrangères? Et là, ça devient plus compliqué, effectivement, parce que toi, tu es très dans les sciences, techno, donc tu vois que tu as des projets, que c'est important qu'ils travaillent ensemble. Et nous, dans les langues, on va se dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir effectivement les faire travailler ensemble? Mais alors, j'ai des objectifs linguistiques, on a une donnée supplémentaire qui vient s'intégrer. C'est là où on a un peu de mal à se dire, tiens, comment est-ce que dans l'enseignement des langues, je vais pouvoir intégrer ce genre d'activité, en fait?
D'accord, oui, c'est vrai, à votre niveau, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois je défends ma crèmerie
Non, non,
sur
mais c'est super
l'histoire
intéressant.
des groupes, mais tu aurais du mal à l'exploiter, c'est ça que tu veux dire.
Non, parce que par exemple, moi je travaille pas mal, j'essaye de les faire travailler en groupe, mais moi, mon enjeu en tant que prof de langue, il est clairement qu'au sein du groupe d'étudiants, ils utilisent la langue cible, la langue qu'ils apprennent, pour communiquer entre eux. Et quand ce sont des apprenants de langue maternelle commune, c'est pas évident, puisque n'importe quel humain qui travaille ensemble, quand ils sont en groupe, ils vont revenir, ils ont besoin de communiquer facilement, donc ils vont passer justement par leur langue maternelle. Et moi, c'est exactement l'inverse que je veux. Ce que je veux, c'est qu'ils arrivent à utiliser la langue, parce que c'est quand même là mon but de prof de langue, c'est de les faire produire dans la langue qu'ils apprennent. Et j'utilise ce système avec des points en disant, voilà, le nombre de productions en langue étrangère va faire des quotas, enfin, il y a plein de petits jeux à faire. Mais d'accord. Mais effectivement, comme tu disais, Sébastien, c'est tellement une problématique différente pour nous dans les profs de langue, mais ça a le mérite d'exister en fait. Je vois, ce ping-pong, j'arrive à le faire, mais entre deux équipes où ils doivent se répondre, il faut que les équipes répondent en langue étrangère correctement. Si la structure est pas bonne, ils marquent pas le point. Si la question, enfin voilà, tu vois, c'est ce genre de truc que je fais pas mal.
Donc moi c'est vraiment parce que le problème du travail de groupe qu'on perçoit souvent, c'est que les élèves finalement on travaille en groupe, ils font chacun leur petit morceau à eux et puis voilà ils participent pas sur la même question, ils participent pas tu vois
Complètement.
ensemble voilà.
Non, intéressant.
Voilà.
Sébastien?
Oui, moi je voulais parler un petit peu de cloud computing, donc l'informatique dans les nuages. Vous aviez parlé dans pas mal de vos numéros de pédagogie inversée et de travail en autonomie à la maison pour ensuite revenir en classe sur un travail plus collectif, plus collaboratif. Et l'enjeu, c'est toujours un petit peu comment partager des documents avec ses apprenants. Et j'ai testé beaucoup de services de cloud. Alors j'en utilise plein. Enfin, tout à l'heure, je partagerai mon écran. Vous verrez que dans ma barre là-haut, il y a deux Dropbox, un SugarSync, un Box, un Drive, etc. Mais le partage avec ses apprenants est toujours un petit peu complexe. Soit ils doivent s'inscrire, ouvrir un compte, ou c'est pas très très clair. Et donc j'avais trouvé en fait Voilà. Donc Voilà, c'est développé par l'ACI, donc la compagnie qu'on connaît pour toutes ces clés USB, ces disques un peu design avec des trucs faits par Stark, Porsche et tous ces machins-là. Et donc Voilà propose déjà un compte de 5 gigas gratuitement à l'ouverture. Si vous avez des produits l'ACI, je sais qu'il vous offre du stockage supplémentaire pendant un an. Et il a une interface très très simple. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Alors je vais me loguer tout de suite et puis vous pourrez constater ça. Alors le principal avantage, c'est que vous avez à la fois une application et une web application. Donc l'application en tant que telle sur votre ordinateur, ça va être un petit navigateur sur Windows ou sur Mac qui va s'intégrer complètement à soit le Finder sur Mac, soit l'explorateur de fichiers sur Windows, et ça va vous rajouter en fait comme une clé USB supplémentaire.
D'accord.
Et vous gérez donc la gestion de fichiers se fait de manière très très simple. Et vous mettez ce que vous voulez, vous l'organisez comme vous voulez. Vous pouvez faire votre groupe, par exemple, je sais pas moi, de CM2 ou de troisième en collège. Je sais pas si vous utilisez des numéros ou des lettres, mais c'est un peu ce principe-là. Et vous pouvez ensuite très facilement partager ce fichier par une URL qui sera donc une adresse internet qui sera secrète. Il y a trois options de partage, soit public, soit privé, c'est-à-dire il n'y a que vous qui avez accès, ou alors par un lien secret qui est sécurisé, et vous pouvez comme ça donner à une classe une adresse, et ils auront tous leurs documents juste à cette adresse, et vous organisez soit par semaine, par thème, comme vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment simplement faire une arborescence toute simple comme ça, et décider de faire ce partage.
Sans login, hein, c'est ça, donc ils n'ont vraiment pas besoin de login.
Alors voilà, l'intérêt c'est ça, c'est qu'ils pourront télécharger, consulter les documents sans avoir à ouvrir. Ah, Dropbox le fait, mais pour moi ça devenait un petit peu compliqué avec Dropbox parce que je l'avais utilisé avec ma sœur, avec un collègue, donc bon, je savais plus trop ce qui était public, ce qui était privé, etc. Donc je préférais scinder un peu tous les services et essayer d'en avoir un qui était dédié à l'enseignement. Et le plus simple techniquement que j'ai trouvé, c'était Voila, qui envoie simplement donc une URL qui est secrète, et puis qui donne directement accès à l'arborescence que vous souhaitez. Et donc après, à l'intérieur de cette URL, par défaut, si vous faites un dossier, par exemple 3e A, et tous les dossiers à l'intérieur seront disponibles pour les gens qui consultent ce lien, ou alors vous pouvez en cacher certains, en mettre d'autres publics et paramétrer dossier par dossier. Et tout se fait avec un simple clic droit sur les dossiers, et après il n'y a plus grand chose à faire. Et comme vous gérez ça comme un navigateur tout bête finalement, et ben c'est très très simple à gérer, et pour eux et pour vous en fait.
D'accord. Donc si je résume un petit peu, quel est le gros avantage que tu vois par rapport à Dropbox? T'as pas besoin d'installer d'application sur l'ordinateur en fait, c'est ça?
Alors, il n'y a pas besoin d'installer d'application si vous êtes un simple, si vous consultez simplement. Si toi tu veux partager, tu auras une petite application à télécharger qui te donnera l'option donc soit de gérer ton interface de fichier directement dans cette application qui est dédiée, soit de l'utiliser en installant un petit module complémentaire si ma mémoire est bonne. Dans Windows pour pouvoir avoir ce lecteur supplémentaire qui apparaîtra dans ton arborescence de fichiers comme une simple clé USB. Et l'avantage par rapport à Dropbox, je pense que il n'est pas évident, si ce n'est que bon, vous avez 5 gigas gratuits alors que Dropbox commence à 5 commence à 2 pardon. Et mais ouais, ça augmente assez vite après si vous activez des options de partage et tout ça. Et ensuite, eh bien, c'est à peu près tout. C'est le seul avantage qu'il a. Moi, je voulais simplement vraiment dissocier les services que j'utilisais avec des amis, la famille, et puis ceux que j'utilisais avec le cours. Alors peut-être si je fais un petit, je peux faire un petit partage d'écran pour montrer ça.
Alors voilà, c'est WUALA, hein, c'est ça.
WUALA.com voilà. Effectivement. Donc là, si alors je sais pas si il faut que j'accepte de démarrer le partage d'écran. Ouais.
Là, c'est quand tu partages des documents. Et si tu en ça t'arrive aussi dans l'autre sens, récupérer des travaux, ça t'arrive ou non?
Non, parce que là, si je veux récupérer des travaux ou qu'il les modifie, il va nécessairement falloir qu'il s'inscrive et j'aurai les options de partage synchronisées avec Dropbox. Mais là, bon, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous donnez un dossier avec des documents et puis que les élèves peuvent commencer à les supprimer, à en ajouter et tout ça, ça devient vite assez difficile à gérer. Alors là, je suis en partage d'écran. Donc, l'interface de l'application est celle-ci, donc on voit, ça c'est vraiment l'application Voila, avec en jaune les dossiers qui sont personnels, que je partage pas, et puis ici les dossiers en rouge que je partage avec mes étudiants. Donc eux, ils voient qu'ils ont les documents généraux, quelques chansons que je leur mets de temps en temps, la première tâche qu'on fait ensemble, la deuxième, etc. Et puis on peut ensuite, moi j'ai décidé d'organiser comme ça avec un dossier devoir, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Ils peuvent télécharger tous les documents. Et donc, en fait, c'est très simple. Pour un petit clic droit dessus, pardon, vous avez donc les options de partage qui sont ici. Et donc, vous avez partagé par un lien secret. Donc là, ce sera simplement un petit lien qui va apparaître et vous pourrez le copier, partager avec les contacts, voilà, et rendre privé. Vous avez aussi une option pour le rendre public. Et rendre privé ici, c'est le dossier va redevenir jaune et mes élèves n'y auront plus accès, en fait. Donc, d'accord, partager avec un lien secret comme ceci, voilà, j'ai juste le lien, je le copie. Et puis après, j'ai plus qu'à l'envoyer par email. Et si on regarde sur le bureau, j'ai ici mon petit lecteur voilà qui apparaît comme une clé USB, tout simplement.
D'accord.
Et après, je peux le gérer avec le Finder très très facilement.
Je trouve ça très clair, ouais, c'est clair avec l'histoire des couleurs, etc. C'est vraiment vraiment chouette.
J'en avais déjà entendu parler et je suis assez convaincu.
Ouais.
Je trouve ça bien plus ergonomique que les Dropbox ou les Drive.
Ben souvent Dropbox, on est perdu sur les histoires rendre public, pas rendre public, on est un peu perdu là-dessus souvent.
Et
ce que tu disais. Ouais.
Je trouve que c'est ouais, je suis assez impressionné et je pense que je vais dans les 5 minutes qui suivent
à tester.
Le tester. Et
bah oui, parce que quand tu vas envoyer une vidéo pour que justement qu'il la regarde et que tu fasses ton ping-pong après en cours, tu vois, c'est très facile du coup. Tu leur mets la vidéo là-dessus et puis t'as pas tous ces problèmes où si tu l'envoies par mail, des retours parce que la boîte est pleine ou le fichier est trop gros, etc. Il y a pas ce souci-là. Parce qu'il y a pas de limite. Enfin, il y a une limite qui n'est pas problématique pour la taille de fichier que tu peux uploader. Je crois qu'ils de mémoire ils doivent être à 10 gigas. Tu vois, un peu comme sur Drive, je crois. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là, et ça, c'est plutôt pratique.
Et est-ce que tu as un accès web de n'importe quel autre ordinateur, comme dans Dropbox, pour aller récupérer tes fichiers ?
Alors, ça, non, justement. Tu es obligé d'installer l'application si tu veux récupérer tes propres fichiers. En revanche, tes élèves, eux peuvent accéder et consulter, télécharger leurs fichiers simplement à partir du lien.
D'accord. Ok, voilà. C'est très clair. Bon, c'est super.
Tu nous as convaincus. Ouais. Ouais.
Très bien.
Je vais finir commerçant.
Vendeur, représentant placier. Très bien.
Vas-y, Guillaume, à toi.
Ouais, bah, je vais faire un petit quelque chose. Je le retourne. Donc, je vais présenter un petit outil assez rapide pour les profs de langue, justement, qui concerne en fait tout simplement l'alphabet phonétique international ou l'alphabet phonétique anglais. Voilà, il arrive, nous, profs de langue, qu'on ait besoin de noter des indications phonétiques sous des mots et il n'est pas toujours évident de retrouver les raccourcis sur les claviers. Si vous voulez, les caractères existent dans les ordinateurs à partir du moment où on installe une police. Il en existe plusieurs. Il existe la plus connue pour l'alphabet phonétique international, c'est le fameux Time New Roman Phonetics. Il en existe plusieurs. Donc en fait, à partir du moment où vous avez ces polices installées, je vais dans un instant vous expliquer où on peut les trouver. Il existe un petit utilitaire qui s'appelle Phonétique, PHO, enfin phonétique avec un K à la fin. Vous tapez ça sous Google et vous trouverez rapidement le site qui gère ça. Le site, c'est exactement .école, donc pointe, un P-O-I-N-T-E, et puis col, C-O-L-E, en fait, c'est un petit jeu de mots, .free.fr. Jeff, je pense qu'on pourra mettre le lien après. C'est un tout petit utilitaire qui existe sur Windows et sur Mac, qui doit pouvoir exister sur Linux avec un petit portage Wine, et qui permet... Alors, attendez, je vais essayer de partager mon écran également. Tadam ! Est-ce que ça va marcher ? Hop ! Voilà, vous devriez me voir. Vous voyez mon écran ?
Ouais, c'est bon.
C'est bon ? Bien, donc je lance la petite application. Là derrière, c'est la page du site qui est ouverte. Je lance l'application qui devrait se lancer. C'est l'effet Bonaldi, ça va arriver, ça y est. Vous voyez, donc il suffit en fait très rapidement avec ma souris de cliquer sur les symboles phonétiques qui m'intéressent. Hop, on va se dire un petit bonjour. Ma petite diphtongue, elle est là. Voilà, j'ai mon symbole phonétique. Il suffit d'appuyer sur la touche copier et dans n'importe quel traitement de texte derrière, j'ai plus qu'à la coller. Et j'ai mon écriture phonétique qui apparaît. Je vais essayer de la grossir pour que tout le monde la voit bien. Voilà, ça paraît un peu tout bête, mais par exemple, ce schwa, on appelle le fameux son A ou le U, Ce sont des symboles un peu pénibles à obtenir par des combinaisons de clavier ou alors il faut programmer des combinaisons sur les traitements de texte. C'est pas évident du tout. Donc, il est gratuit. Il faut juste en amont installer deux polices qui sont de toute façon disponibles sur le site. C'est très bien expliqué. Et ça fonctionne super bien. Donc, je sais pas si j'ai été clair, mais voilà.
En gros, oui, même pas de souci. Hein.
C'est pas un outil, c'est pas bon. Voilà, c'est quelque chose de.
Ouais, sinon, dans les traitements de texte, tu passes quoi par les caractères spéciaux, les choses comme ça, c'est ça?
Et ben voilà, on est obligé de faire insérer un symbole, et puis ils sont pas tout le temps disponibles.
Ouais, c'est
pas... Donc oui. c'est pas facile.
C'est pas très convivial.
Ouais, puis de toute façon, t'es obligé quand même d'installer une police à la base pour retrouver ça, même dans les caractères spéciaux. Donc t'es obligé d'installer une police. Pour pouvoir retrouver tous ces symboles. Donc le fait qu'ils soient là, disponibles tout de suite, ça facilite grandement les choses, surtout en langue, hein, où tu essayes de les sensibiliser à la prononciation, etc. Qu'ils puissent avoir un rappel comme ça, c'est pas mal, quoi. Et peut-être même pour eux, finalement, hein, pour prendre des notes sur la prononciation. Je sais que nous, de temps en temps, on fait de la sensibilisation comme ça à l'alphabet phonétique international, c'est pratique, quoi.
Tout à fait. C'est vraiment important et je trouve que pour les profs c'est quand même un gain de temps. Quoi qu'il arrive, t'as raison. Il faut installer la police. Ça change pas, mais bon, ça prend deux clics. Et vraiment, quand on est en phase de comment on appelle ça, de trace écrite, qu'on veut vraiment que tout soit fixé, surtout à l'heure où on a toujours envie de publier après les cours, parce que bon, on peut le faire sur un tableau blanc avec un marqueur blanc, il y a pas de problème, on l'écrit sous les mots, mais on peut pas le conserver. Là, on peut vraiment tout sauvegarder dans la trace du cours, le mettre en PDF et le mettre dans les outils, voilà, Dropbox, sur des ENT, sur ce que vous voulez. Et ça a quand même un intérêt certain pour les apprenants de retrouver ces symboles et qu'ils puissent s'y familiariser. Voilà.
Ouais, c'est un intérêt certain. Bah, je rajoute encore un truc, hein, parce que quand j'ai appris l'anglais ou l'espagnol, évidemment, on me faisait travailler la prononciation. Mais finalement, on avait peu recours en cours à l'alphabet phonétique. Et je me demande si c'était pas tout simplement une limitation technique qu'avaient les enseignants à l'époque où j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Plutôt, tu vois, que de se dire, bon, ça sert pas à grand chose. Non, je pense que ça a une utilité et que les profs, justement, à l'époque où j'ai appris ça, ne savaient pas comment faire avec un ordinateur ou dans les documents, comment réutiliser ça. Et dans les méthodes, c'était pas très présent.
Oui, c'est vrai que j'en ai pas souvenir, hein, je confirme, moi, la phonétique en anglais.
Alors, sans refaire l'histoire de la didactique de l'anglais, je pense qu'il y a eu aussi des vagues, des vagues de pensée sur l'enseignement des langues, à savoir qu'à une époque, il y a fort longtemps, dans les méthodes audio-orales, il fallait l'utiliser. Après, on est passé dans d'autres méthodes où, au contraire, on a commencé à dire finalement ça servait pas à grand chose. Et c'est peut-être la période que nous on a connue en tant qu'élève qui fait que on a peu insisté dans nos cours sur ce point-là, qui fait qu'aujourd'hui la plupart des Français de nos âges, on va dire entre 30 et 40 ans, des prononciations moyennes. Et maintenant, là, depuis une dizaine d'années, depuis le cadre européen et encore avant, il y a un vrai retour à une volonté claire de travailler avec les symboles phonétiques. Et je pense que plus tôt on commence, plus on habitue les enfants tôt à lire ces films, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Ils en ont moins peur et quand ils regardent leurs cours, tout de suite ils ont l'indication phonétique. Surtout que il existe aujourd'hui de multiples outils. On en a déjà parlé dans un autre podcast sur les voix de synthèse qui permettent d'avoir un peu un rendu, certes robotique, mais quand même avoir une idée. On sait pas un mot, on peut arriver à l'écouter. Aujourd'hui, les technologies de synthèse vocale le permettent. Donc, on est quand même clairement dans une optique d'amélioration de la prononciation importante. Et je suis d'accord, Sébastien, t'as tout à fait raison. La limitation technique faisait aussi que on l'utilisait peu ou les collègues pas du tout à une certaine époque, ouais, complètement.
Ouais, et puis c'est pas seulement utile pour la prononciation, mais aussi pour la compréhension. Hein. Si vous pensez en français, il y a très peu de moments où vous dites par exemple une phrase comme « je ne sais pas ». C'est tout bête, mais tout le monde va dire « je sais pas », quoi. Et le fait de faire ce lien comme ça avec la phonétique, ça peut aussi aider à la compréhension quand on se rappelle un petit peu en lisant une phrase. Puis l'anglais et le français ont cette particularité-là en commun, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre l'écrit et l'oral. Et je pense que ça peut aider aussi à ce niveau-là.
Complètement, sans faire un podcast sur les linguistiques, mais la relation graphie-phonie, l'anglais est tellement compliqué, voilà, entre ce qui est écrit et ce qu'on entend, avec toutes les liaisons, avec toutes les accentuations et les rythmes, que le fait d'être capable de lire un moment ou une transcription phonétique, à mon avis, développe justement cette relation graphie-phonie importante à connaître dans une langue étrangère, complètement. Désolé, Jeff, on est sorti un petit peu de...
Pas de souci, hein.
Recadre-nous, Jeff.
Quoi donc, mon petit Jeff ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait une demi-heure, on lance...
Je sais pas, Sébastien, si t'as encore un peu de temps.
Alors, Sébastien, j'ai vu que sur les notes de l'émission, tu avais mis un outil qui m'intéressait, qui était Cloud Café, où j'ai un petit peu regardé, là. Où on met...
Tu
peux nous en toucher un mot ? Vas-y.
Ouais, je vais faire ça rapidement. Donc, Cloud Café, effectivement. Alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup de services de stockage dans les nuages, ouais, de cloud computing, effectivement. Et ce petit service ici, donc je vais vous le partager, il a deux utilités pour moi. Donc, je vais réactiver le partage d'écran. Ok. Il a deux utilités pour moi, c'est à savoir rassembler un petit peu tous mes services dans un seul endroit. Donc là, comme vous le voyez, on a cette interface ici qui est par document, par photo, par vidéo, les notes, les contacts. Et ici, je peux rajouter donc des services. Bah, là, vous le voyez, il y a Drive, ici il y a Box, là, il y a Dropbox, ça c'est SkyDrive, il y a SugarSync qui est là. On peut en ajouter d'autres. Alors régulièrement, ça se met à jour où on peut ajouter des services. Et après, au lieu de rechercher dans chacun de mes services où j'ai mis tel ou tel document ou telle photo, je vais pouvoir aller rechercher mon document en cherchant comme ça dans les notes, et ce sera assez simple. Allez, ensuite, si on clique sur une de ces rubriques, on va avoir donc tous nos services qui sont sur le côté, et on va pouvoir parcourir assez rapidement. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez ajouter des contacts, des choses comme ça, puis rechercher ici un document par titre, par mot-clé ou des choses comme ça. Il va faire la recherche tout seul sans avoir à se soucier de si vous l'avez mis sur votre Drive, sur votre SkyDrive ou autre chose. Voilà. Donc ici, vous avez tous mes dossiers, toutes mes notes. J'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises qui sont là par service, si je veux. Ou alors je recherche et lui va faire une recherche à travers tous mes services. La deuxième utilité, c'est la dernière petite icône que vous avez ici, qui est le panier. Donc à savoir que là, dans un panier, je peux créer un panier très simplement, et dedans, j'ai supprimé le premier que j'avais fait d'ailleurs, dedans mettre des documents qui sont un petit peu dans tous mes services. Donc je vais juste cliquer ici pour ajouter des documents, et puis les ajouter. Voilà, là je fais simplement la sélection de ce que je peux mettre. Donc voilà, un article, je peux mettre aller chercher, bon voilà, genre, ok, share. Hop, etc. Et il va se retrouver dans mon panier. Je peux aller chercher comme ça dans plusieurs services et ensuite partager ce panier avec qui je veux. Et la personne va pouvoir consulter les documents qui sont dans ce panier. Là, on voit l'article que j'ai mis dedans. Et puis, la personne va pouvoir consulter tous les documents que j'ai mis dedans sans avoir à s'inscrire. C'est-à-dire que même si je mets un document Google Drive, la personne va pouvoir le lire sans avoir un compte Gmail. Ça, c'est pas mal. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il fait. Vous pouvez lui mettre un nom, une petite description, et puis partager comme ça plusieurs documents qui sont éparpillés un petit peu partout dans vos différents services.
D'accord.
C'est
une web app, c'est ça ? C'est tout dans le navigateur, c'est ça ?
C'est juste une web app. Il n'y a rien. Tout se fait dans le navigateur. Il n'y a rien à installer. Vous avez juste à vous créer un compte et puis ensuite à ajouter, autoriser tous vos comptes de stockage, vos comptes de photos, etc. pour que lui-même aille se connecter dessus et bien sûr à autoriser l'accès, en fait.
Et tu peux passer d'un document, par exemple, d'un Dropbox à, je sais pas, un Drive, par exemple.
Ouais. Tu ajoutes simplement. Tu vois, là, j'ai ajouté ça qui était dans mon Google Drive.
Ouais.
Et puis après, si j'ajoute un deuxième document, je peux aller le chercher dans mon Dropbox.
Si tu as un document sur Drive et que tu veux le mettre sur ton Dropbox, tu peux aussi dans ce sens-là ou non ?
Ah, tu veux dire transférer d'un service
Ouais.
à l'autre? Non, ça tu peux pas le faire. Non,
D'accord.
non. Ah, quoique, j'ai jamais essayé.
D'accord. Non, parce que
Ça me paraît.
je
J'ai pas fait le
pensais,
test.
je pensais à une petite utilité. Non, j'avais.
Ça me paraît compliqué parce que ça voudrait dire que les services entre eux auraient des porosités. Et, ça me paraît un peu.
D'accord, non. Non, ok.
Mais en tout cas, c'est à
C'est
l'heure
pas
du
mal.
cloud et enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent quand même que ça reste. L'avenir, maintenant, on peut avoir ce débat ultra rapidement, hein, puisque il y en a aussi autant qui pensent que c'est une catastrophe et qu'en termes de sécurité, c'est la pire des choses qui existent.
Ce qu'on y met, hein, c'est pour mettre des cours, hein,
Ah,
nous.
mais après, ça, c'est toi
Voilà.
qui décides de
Voilà.
ton utilisation, mais je veux dire, quand bien même, enfin, oui, je suis.
À notre niveau, la sécurité, enfin bon.
Oui,
Ouais,
mais
ouais.
quoi qu'il arrive, t'acceptes quand même de mettre tes données perso sur un serveur,
Ouais.
bon, tes mots de passe sont cryptés, certes, mais bon, etc., etc. Mais nos élèves, aujourd'hui, nos jeunes, je parle des jeunes en tout cas, utilisent de plus en plus ces services, et je pense qu'il y a aussi un côté éducatif à avoir par rapport à ça, justement, de leur dire, ça existe, mais faites attention, c'est tout ce rapport aux réseaux sociaux, aux photos, à tout ce qu'on peut mettre sur la toile, qui à un moment ou
Moi,
un autre,
ce que je leur dis, c'est tout ce que vous mettez sur Internet, pensez qu'un jour ça peut être public. Voilà, pour moi, c'est la chose que je leur dis d'entrée. Voilà. Voilà.
Ouais, moi, les choses les plus risquées que je mets dessus, c'est les photocopies de passeport, etc. Parce que, eh ben, quand t'es à l'étranger et que tu perds ton passeport et que tu vas dans un consulat ou une ambassade, ça facilite beaucoup les choses d'avoir une photocopie, si tu veux, accessible un petit peu partout. Mais bah, c'est
Ouais.
vrai qu'au niveau sécurité, je sais pas ce que ça peut faire. Si quelqu'un me prend une photocopie de passeport, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de grosses conséquences. Mais bon, c'est pas non plus ma seule. C'est toujours une copie. C'est-à-dire que j'ai pas un truc qui est seulement stocké là.
Ouais, tant que t'as pas ton compte bancaire et ta carte bleue, moi je dis bon, voilà.
Tu veux pas nous la donner là comme ça, tout le monde sera au courant tout de suite, ce sera
Non mais bon, on aurait ce débat, mais on pourrait avoir ce débat, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on fait? On termine par un petit quelque chose ou on arrête là?
Bah ça fait, on est aux 40 minutes, on est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en
Allez,
penses?
bon, on le gardera pour la prochaine fois, mais je serais ravi que Sébastien revienne sur un podcast pour ça, parce
Bah,
que
ce
franchement,
sera
on a
avec
encore
joie,
plus
ouais. Bah,
et voilà.
profite un petit peu, Sébastien, pour refaire un petit peu ta promo, si on veut te contacter sur le web.
Ah oui. Alors sur le web, moi je suis essentiellement actif sur Twitter, donc c'est @TheTrueSeb, le vrai Seb. C'est un hommage à Mister X, hein, pour ceux qui regardent On refait le Mac. Donc oui, sur ardufleu.net, où il y a mon podcast, donc sur le. Bon, c'est seulement vraiment pour les profs de langue étrangère, hein, sinon, je pense
Bah tu vois,
que c'est il y a peu d'intérêt, quoi.
j'ai été curieux, mais t'as quand même parlé d'outils, tu vois, qui m'ont touché, quoi. Je veux dire, même si la partie fleu était moins intéressante pour moi, t'avais quand même parlé de quelques outils qui sont fort intéressants en tout cas.
Ouais, il peut y avoir, mais bon, principalement quand même, on va le conseiller aux profs de langue qui s'intéressent bah, au cadre européen, aux pratiques de classe, à toutes ces choses-là. Donc souvent j'ai des invités qui viennent présenter un peu leurs travaux, leurs expériences. Voilà, j'essaie de le faire à peu près une fois par mois. Mais c'est vrai que ça demande pas mal de boulot parce que les dossiers sont assez difficiles à préparer, quoi.
Très
Très
bien.
bien. En tant que prof de langue, je peux que vous conseiller d'y aller puisque c'est super intéressant et je pense qu'on se regarde jamais tous assez les uns les autres de toute façon dans nos matières respectives. Donc allez-y, échangez et voilà, continuons.
Ouais, et puis merci beaucoup à tous les deux de m'avoir invité. C'était vraiment un très bon moment. Et puis bah, bravo pour votre podcast, parce que c'est vrai que le format assez rapide comme ça, avec des présentations de petits outils qu'on peut utiliser facilement en cours sans avoir trop de connaissances techniques, c'est une bonne initiation, effectivement, et un bon encouragement aux profs de se familiariser un peu avec la technologie, parce que ça rend les outils très très accessibles en tout cas. Donc bravo et bonne continuation. Donc, hey teachers.
Eh ben, merci à toi
Merci.
et à très vite. Et puis bonne soirée à
Merci.
tous. Et nous, on
Bonne
vous
soirée à
demande,
tous.
Jeff, dans 15 jours, c'est ça?
On va essayer, hein.
On va essayer dans 15 jours.
On va essayer.
Filmer la toile.
Merci Sébastien. Au revoir à
De
tout le monde.
rien.
Au
Salut.
revoir.